VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa, en RDC. Bonjour à tous. Observation officielle aujourd'hui aux États-Unis du Veteran Day, c'est-à-dire la journée des anciens combattants, qui tombe le 11 novembre chaque année, a été donc commémorée hier à travers le pays. Hommage est rendu à cette occasion au sacrifice de millions d'hommes et de femmes qui ont servi dans les forces armées américaines au prix de leur vie, souvent de Paris. Le président Donald Trump a salué dans un tweet ces héros de la nation américaine. Cela dit, M. Trump participait hier en France en compagnie de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont son homologue russe Vladimir Poutine, à la commémoration en grande solennité à Paris du centenaire de l'armistice. L'occasion pour le président français Emmanuel Macron de dénoncer le nationalisme. Le point avec Jacques Chirac.
Plusieurs chefs d'État ont profité de cette journée symbolique pour mettre en garde contre les risques de guerre, ravivés selon eux par la remise en cause croissante du modèle multilatéral, socle des relations internationales depuis l'après-guerre. Emmanuel Macron a mis en avant le patriotisme et dénoncé le nationalisme évoqué récemment par le président Donald Trump. Un forum sur la paix a également été organisé pour marquer ces commémorations en France. Lors d'un déjeuner au palais de l'Élysée, le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un échange informel assez long sur les dossiers diplomatiques mondiaux. Le président Trump s'est rendu au cimetière américain de Suresnes pour rendre hommage aux Américains tombés au champ de bataille. Auparavant, environ 1500 personnes s'étaient réunies dans le calme à Paris pour dénoncer sa présence. En revanche, trois militantes féminines ont réussi dimanche matin à forcer la sécurité sur les Champs-Élysées pour s'approcher du convoi du président Trump avant d'être interpellées.
Vous l'aurez rectifié de vous-même, c'est Jacques Aristide et non Jacques Chirac, l'ancien chef de l'État français. Le tweet virulent de Donald Trump sur la défense européenne est une incitation supplémentaire à créer une armée commune au sein de l'Union européenne, a estimé aujourd'hui le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, pour qui l'Europe doit affirmer sa souveraineté. Le président américain, lors de son arrivée à Paris vendredi soir pour les cérémonies du 11 novembre, avait jugé très insultant les propos d'Emmanuel Macron plaidant pour la construction d'une armée européenne et estimant que l'Europe devait se protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis. L'Élysée a toutefois assuré que l'armée européenne en question ne visait en aucun cas les États-Unis, évoquant une confusion dans l'interprétation de ses propos. Des combats particulièrement meurtriers font rage ce lundi dans la ville portuaire de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, au moment où Washington et Londres accentuent la pression sur l'Arabie Saoudite pour que la coalition qu'elle commande dans ce pays cesse rapidement les hostilités. Au moins 110 rebelles, 32 loyalistes et 7 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans les affrontements, dont certains se déroulent dans des quartiers résidentiels. Ce bilan a été donné alors que les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, opposent une farouche résistance à la progression des forces pro-gouvernementales appuyées par l'Arabie Saoudite, a admis une source militaire loyaliste.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
L'opposant Martin Fayulu, âgé de 62 ans, désigné dimanche candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo, est un ancien cadre du secteur pétrolier formé en France et aux États-Unis qui s'est mobilisé contre un troisième mandat du président Joseph Kabila et contre la machine à voter. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, se définit donc comme une personne dotée d'une expérience qui fait la différence. Son projet de société, qu'il qualifie de social-libéral, est contenu dans un ouvrage dont le titre est « Investi dans le citoyen pour développer la RDC ». La majorité au pouvoir à Kinshasa dit aujourd'hui avoir pris note du choix du député Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle pour succéder au président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. M. Fayulu devrait affronter donc le 23 décembre Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la majorité sous le label d'une nouvelle coalition électorale d'opposition mise en place à Genève, dénommée Lamuka, réveille-toi en langue lingala et swahili. À Madagascar, 4 jours après l'élection présidentielle, l'ancien président de la transition, Andry Rajoel, reste en tête devant son rival, Marc Ravalomanana, selon les résultats partiels publiés dimanche par la CENI, la commission électorale du pays. Les détails avec Abdulaziz Adili Touro.
Avec 7597 bureaux de vote traités sur les 24852 que compte le pays, soit 30,57%, Andry Rajoel reste en tête avec 40,87% des suffrages, suivi par Marc Ravalomanana, 35,99%. Au vu de la dégringolade du score du candidat Ravalomanana, son équipe va effectuer une visite à la commission électorale ce lundi. Son directeur de campagne a déjà dénoncé une tentative de fraude et de corruption de la CENI. Le président sortant, Ir Radjo Narmampian, quant à lui, remonte lentement avec 7,01%. Il a aussi dénoncé de nombreuses irrégularités de vote. Ces accusations ont été démenties par la CENI. Le code électoral malgache impose aux candidats un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des suffrages au premier tour. La grande île est régulièrement déstabilisée par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance de la France en 1960.
L'opposition togolaise ne participera pas aux élections législatives annoncées par le gouvernement pour le 20 décembre. Son leader Jean-Pierre Fabre estime que la CEDEAO veut se servir de la tenue du scrutin pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible et transparente, a dit Jean-Pierre Fabre, qui réagit ici au micro de Irénée Manoubo à l'annonce du gouvernement togolais.
Ces chefs d'État qui ont suggéré cette date, ils organisent des élections chez eux. Ils savent très bien que si on veut organiser des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, crédibles, on exécute d'abord les tâches nécessaires. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens. Il faut que tout soit clair, parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'élections ordinaires. Il s'agit d'une élection dont la CEDEAO veut user pour régler la crise togolaise. Je pense que si nous disons qu'il y a des conditions à régler pour que nous puissions participer à ces élections, il faut qu'au moins pour une fois, on nous écoute.
L'opposant togolais Jean-Pierre Fabre. Au Gabon, la présidence a annoncé dimanche que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était, je cite, « en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques ». Fin de citation. Libreville reconnaît ainsi de manière implicite la gravité de son état de santé. Thomas Kamenidi fait le point.
Le président Bongo, 59 ans, a été hospitalisé le 24 octobre dernier à Riyad à la suite d'un malaise et aucune information n'avait été communiquée officiellement depuis 2 semaines, alimentant les folles rumeurs. Le conseil des sages du parti présidentiel avait même appelé le gouvernement à communiquer judicieusement pour rassurer l'opinion. Le porte-parole de la présidence, Ike Nguoni, est finalement sorti du silence dans une déclaration se voulant rassurante, mais qui a confirmé, sans le dire directement, que le chef de l'État restait dans un état de santé fragile. Selon M. Nguoni, un saignement a justifié une prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé. Son état de santé s'est sensiblement amélioré, a déclaré le porte-parole, qui n'a pas précisé de quelle maladie était ou avait été victime le président Bongo. D'après M. Nguoni, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions et les institutions fonctionnent parfaitement dans le strict respect de la Constitution. Selon une source étrangère proche du président Bongo, celui-ci a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, cause de son hospitalisation en Arabie Saoudite.
Merci Thomas. Sébastien Chado Petronin, nous allons au Mali, fils de Sophie Petronin, l'otage française détenue au Mali depuis près de 2 ans, a indiqué à l'AFP aujourd'hui avoir visionné un nouveau message en vidéo très alarmant des ravisseurs qui lui fait craindre pour la vie de sa mère. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, avait été reçue à la mi-juin. Elle y apparaissait très fatiguée, le visage émacié, et en appelait au chef de l'État français. La septuagénaire qui, au moment de son enlèvement à Gao, dans le nord du Mali, le 24 décembre 2016, dirigeait une association d'aide aux orphelins, affirmait dans sa dernière vidéo redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée. Fin de ce journal, le prochain, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.